Voilà. C'est vraiment avec beaucoup de joie que ce matin, je ne sais pas pour vous, mais je me suis levé avec ce message de la résurrection. Et je bénis Dieu d'avoir été conduit par, donc par le groupe, hein, Jacques, et puis le groupe de la louange pour célébrer cette résurrection. J'aimerais, donc, Jacques a fait un petit saut en arrière pour revenir à la résurrection. Ce matin, on fera pareil avec ce texte de Jean 19, au chapitre 30. Verset 30, pardon, à 42, Jean, chapitre 19, verset 30 à 42. Et je lis, « Quand Jésus eut goûté le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats enfonça sa lance dans le côté, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé afin que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, notre texte déclare, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit, et Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, et il apporta environ 30 kilogrammes d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent d'un linge funéraire en y mettant les aromates, selon l'usage funéraire des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf, où personne n'avait été encore enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, encore, parce que nous savons que ce sont de bonnes mains qui cherchent en nous la vie, à nous procurer la vie. Seigneur, nous voulons encore nous laisser interpeller par ce message de ta résurrection qui retentit depuis 2000 ans. Seigneur, nous te prions de rendre ce message vivant aujourd'hui dans nos cœurs. Amen. Alors, tout est allé trop vite, bien vite et très vite depuis la veille. L'arrestation le jeudi soir à Gethsémané, sa comparution devant le tribunal juif, puis devant le souverain sacrificateur, puis devant Pilate, puis Hérode, puis Pilate. Finalement, Jésus est condamné. Condamné à être crucifié le lendemain, soit le vendredi matin à 9h. Sans oublier tout ce qu'il a subi avant, cela, jugement injuste, moquerie, crachat, insulte, coup de fouet. Alors on a bien cherché contre lui un chef d'accusation, c'est-à-dire une faute commise qui mérite une condamnation, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Bien sûr, on a fait approcher de nombreux témoins, ils se sont présentés, mais les accusations ne tenaient pas. On retiendra le fait qu'il ait dit « Détruisez ce temple en 3 jours et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. » Soyons sérieux, pouvons-nous condamner quelqu'un, un homme, pour de tels propos? Au mieux, c'est un mystique, au pire, c'est un fou. Alors, qui n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Il leur fallait un motif, un véritable motif. Un dossier qui tienne la route devant les autorités romaines. Alors les places, à, je pense que, je sens que, je crois avoir entendu, ben, ça ne tient pas debout. Et voilà qu'un réel motif est trouvé, qui conduira Jésus à Pilate. Jésus est accusé parce qu'il se serait proclamé roi et serait donc une menace sérieuse pour l'autorité romaine. La réalité, c'est qu'il a dit qu'il était le Messie et le Fils de Dieu. Mais cette question n'est pas soulevée devant la justice romaine. Ça, ce sont les affaires internes. La question de l'homme Jésus qui tourmentait depuis longtemps les responsables religieux va donc être réglée. Il va enfin être condamné à mort, condamné à être crucifié. Les chefs religieux ont même réussi un tour de force. Ils ont avec eux la foule, prise à témoin. Et on entend cette foule crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifie-le !» Et Jésus est crucifié pendant quelques heures. On a lu, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli !» Et il pencha la tête et rendit l'esprit. Ceux qui ont assisté à cette exécution commencent à partir les uns après les autres. Il n'y a plus rien à voir maintenant. Alors il y a ceux, bien sûr, qui étaient troublés, ceux qui, beaucoup moins nombreux, sont vraiment attristés et puis certainement terrorisés parce que des phénomènes inquiétants se sont produits. Le ciel s'est fermé pendant 3 heures, la terre a tremblé et le voile déchiré depuis le haut jusqu'en bas dans le temple. Spectacle horrifiant de 3 cadavres qui sont cloués sur une croix. Jésus est mort. Et avec lui, tous les espoirs se sont envolés. Ça a duré quand même quelques heures. Tant et si bien que le texte nous dit comme on était à la veille du sabbat et de plus d'un sabbat particulièrement solennel. Alors maintenant, il faut faire vite. Il y a encore la préparation du sabbat parce que ce jour-là était la veille du grand sabbat, de Pâques, la Pâque juive. Vous savez là où il est question de se souvenir de ce que Dieu a fait pour Israël quand il les a sortis de la main de Pharaon 2500 ans avant. Et le sang de l'agneau qu'il fallait mettre sur les linteaux des portes pour être épargné par l'ange destructeur. Et Moïse leur a transmis ce que Dieu voulait. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour chaque génération. Voilà que maintenant, il faut penser à célébrer cette Pâque que Dieu, leur Dieu, leur avait demandée. N'est-ce pas surprenant ? N'est-ce pas là une contradiction terrible ? Un peuple qui attend son Messie depuis des siècles et qui cherche à célébrer une fête en l'honneur de son Dieu et qui ne reconnaît pas celui que Dieu a envoyé, son propre Fils. Le Golgotha, maintenant, est presque désert. Il y a quelques gardes romains, sans doute quelques curieux encore, mais nous ne voyons pas les disciples. Ils sont dispersés comme il l'avait prédit. Jésus leur avait dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Et là, nous voyons apparaître 2 personnages. L'un s'appelle Joseph, Joseph de la ville d'Arimathée. C'est la première fois que nous le rencontrons, cet homme. Dans les 4 évangiles, nous ne le voyons qu'ici à la mort de Jésus. Nous savons que c'était un pharisien. Il a été le spécialiste de la loi. Ce n'est pas n'importe qui, les membres du Sanhédrin, vous savez, la plus haute instance juridique et religieuse d'Israël. Nous savons qu'il est disciple en secret car il n'ose pas trop s'affirmer devant les autres, affronter l'opposition et la haine farouche de ses collègues, d'autres pharisiens qui étaient contre Jésus. Et il a un poste important dans le conseil. Nous savons qu'il aime Jésus, mais qu'il a du mal à le dire publiquement. Je ne sais pas, mais parfois nous aussi, nous avons du mal à témoigner comme ça de Jésus. Quand il arrive qu'il faut le faire, eh bien, on est peut-être gêné. Et là, je dirais qu'il faut en faire un vrai sujet de prière et le partager avec quelqu'un. Le but n'est pas de critiquer, mais d'encourager au témoignage. Alors peut-être pour trouver plus de force, Joseph est accompagné de Nicodème. Alors lui, nous le connaissons. C'est celui qui a reçu la plus belle affirmation de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est Jésus qui avait dit ça à Nicodème lorsqu'il était venu le voir une nuit. Et puis nous le voyons plus tard au chapitre 7 de Jean. C'est lui qui est venu et qui a quand même dit à ses collègues qui voulaient condamner Jésus, « Notre loi est-elle juste quand elle condamne un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait ?» Nicodème était prudent, il a cherché les mots exacts pour ne pas troubler, mais il n'a pas défendu ouvertement les enseignements de Jésus. Et Jésus lui-même, il a émis l'idée qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Alors comme Nicodème, Joseph d'Arimathée, ce sont des disciples en secret, discrets. Mais ils n'ont pas validé la mort du Seigneur et la sentence du Sanhédrin. Et vous savez, Joseph, donc un autre Joseph, donc c'est Flavius Joseph, donc dit que pour la loi romaine, le corps d'un criminel exécuté était normalement remis à ses proches. Sauf si celui-ci était accusé de sédition. Alors là, il était laissé au vautour dans l'indignité et la honte publique pour servir d'exemple. Et la coutume juive était de ne pas enterrer les condamnés à mort avec leur famille, afin qu'ils n'entachent pas par leurs péchés ces morts qui étaient pieux. Alors que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont avec courage et crainte réclamer le corps de Jésus à Pilate. Ah, et ça, c'est pas une affaire simple. Revenons juste un peu en arrière. La revendication faite à Pilate. Dans Luc chapitre 23, il est dit, « Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ceux-ci crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le !» Et Pilate leur dit, pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, et leurs cris l'emportèrent. Et Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Pilate n'a pas été épargné par la pression des religieux. Il n'a pas été épargné par l'obligation de mettre un innocent à mort, même s'il ne trouvait pas de raison valable. Et pourtant, il va fléchir devant les revendications et les exigences de ces juifs religieux. Et là, il va être encore dérangé, puisqu'il nous est dit là qu'ils trouvèrent Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Une fois de plus, Pilate s'est exécuté. Alors imaginez un peu la situation de Joseph d'Arimathée quand il va venir solliciter le corps de Jésus. Courage et crainte, il arriva et puis il dit, ben, est-ce que nous pouvons récupérer ce corps? Ce n'était pas gagné d'avance. Pilate aurait pu, par colère ou par frustration et vengeance, refuser cette demande, réellement. Mais voilà. Voilà que son cœur était peut-être et peut-être encore rongé par ce qu'il vient de faire, livrer un innocent. Et résonnent encore dans sa conscience les paroles de sa femme. Pendant qu'il était assis dans le tribunal, nous dit Matthieu, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. on peut facilement comprendre le combat intérieur dans le cœur de Joseph d'Arimathée quand il est devant Pilate. Alors il a osé, il a rassemblé toutes ses forces et le courage qui lui restait. Oui, on peut comprendre parfois qu'il n'est pas facile de témoigner de notre appartenance à Jésus. Mais en réalité, il y a des situations qui l'exigent. Quand nous sommes parfois face à quelqu'un qui va mourir sur son lit d'hôpital ou à la maison, c'est une situation qui s'impose. Quand quelqu'un passe par des difficultés, qu'il est paumé, que cette situation s'impose. Il y a des situations qui s'imposent, comme celle de Mardoché, qui voit le peuple juif en train d'être menacé par Aman et le décret du roi perse. Et il vient trouver Esther en lui disant, « Si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Cette situation s'est imposée à Joseph d'Arimathée. Il est venu réclamer le corps de Jésus. Alors Pilate accède à cette demande. Et voilà maintenant qu'on peut identifier ces deux-là comme des disciples. Ils prennent le corps de leur maître. Ils se saisirent de Jésus, leur ami. Sa tête penche, ses bras sont inanimés, son corps est détaché de la croix. Des blessures profondes couvrent l'entité de son corps. Celles causées par la flagellation, les clous des mains, des pieds percés et des traces même d'épines liées à une couronne qui lui a été enfoncée. Et la dernière trace, c'est cette lance qui l'a percé le côté et qui a déterminé que l'eau et le sang, c'était réellement la mort car le sang avait coagulé. Mais voilà. Voilà qu'il n'y a pas le temps de traîner, qu'il faut faire vite car le jour décline. Il faut maintenant célébrer la Pâque de Moïse. Alors, le soir venu, Joseph d'Arimathée, nommé, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, était aussi disciple de Jésus, nous dit Matthieu, et le déposa dans un tombeau neuf qu'il avait fait tailler dans un rocher. Ceci était important. Joseph est un homme riche, il s'est fait construire non loin de là une tombe creusée dans le rocher, quelque part. À proximité de Jérusalem, tout le monde n'avait pas les moyens de le faire. Et avec lui, vite et vite, eh bien, il y a Nicodème avec les 30 kilos d'aromates pour que ce corps ne sente pas trop fort. Mais ce jour-là, ils auront la tête ailleurs, n'est-ce pas? Quelle triste Pâque! Quelle triste Pâque, car celui qu'ils aiment maintenant est mort. Alors ils auraient pu dire, et à mon avis, ils l'ont dit, « Où es-tu, Jésus, toi, maintenant ? Maintenant que la pierre est roulée, que ton corps est enfermé, qu'es-tu devenu ? Qu'es-tu devenu, toi, Jésus, que tout le monde acclamait il y a seulement quelques jours à Jérusalem en criant « Hosanna au fils de David !» Toi qui as fait tant de miracles, qui a enseigné tant de vérités sur le royaume de Dieu, qui a montré tant de bienveillance, toi qui as rendu ton dernier souffle, où es-tu maintenant ? Parfois, mes chers frères et sœurs, parfois, mes amis, nous avons l'impression d'avoir un Seigneur inerte. Il est enterré quelque part, oh, il a prodigué de bonnes paroles. Mais quand nos épreuves arrivent, nous ne le sentons pas à nos côtés. Alors nous disons, ben, où est-il ? La pierre le peut-être l'empêche de sortir. Peut-être pensent-ils au fond de leur cœur qu'ils sont abandonnés. Abandonnés. Jean l'évangéliste ne retrace aucun dialogue entre Joseph d'Arimathée et Nicodème. Leur silence certainement en dit long. Ils n'ont même plus besoin d'échanger entre eux tant ils se rejoignent dans la douleur. Certainement, Nicodème est triste. Certainement Joseph est triste, certainement les disciples sont tristes, et rapidement on roule la pierre lourde à l'entrée du tombeau et d'un tombeau neuf. Ce qui me surprend dans ces textes, c'est de voir que l'adversaire a beaucoup plus porté attention à la promesse de Jésus que l'ont fait ses propres disciples. Eux-mêmes vont importuner de nouveau Pilate afin qu'il mette des gardes, parce qu'il aurait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. C'est une promesse que devaient souvenir les disciples, et non pas eux, les adversaires. C'est curieux que ceux qui aiment Jésus ont parfois tendance à oublier sa promesse, alors que ceux qui le détestent s'en souviennent et se méfient. Mais l'histoire n'est pas finie. Heureusement, l'histoire ne fait que commencer. L'histoire d'un retour miraculeux à la vie du Fils de Dieu. Mais la résurrection, mon frère, ma sœur, c'est plus que cela. Cette histoire, c'est l'action puissante de Dieu quand nous ne voyons plus d'issue. Même à la croix, Jésus est en train de sauver, de fortifier et d'agir avec puissance. Même à la croix, il va s'occuper de confier sa mère à son disciple bien-aimé. Il demande au Père de pardonner à ce monde qui ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle à l'un des deux brigands à qui il promet le pardon et le salut. Oui, la vie éternelle est même annoncée à la croix. Et il a pu dire, tout est accompli. Jésus est roi quand il meurt. D'ailleurs, sa tombe est celle d'un roi. Parce qu'en Israël, on enterrait les rois dans des tombeaux neufs. Et c'est pour cela que sa tombe est une tombe neuve. Jésus est roi quand il meurt. Et il est roi des rois quand il ressuscite. N'avons-nous pas, nous, envie de crier à Joseph d'Arimathée et Nicodème ? Mais votre maître et notre maître va ressusciter ? Ne pleurez pas, il va ressusciter. N'avons-nous pas envie de dire à ses disciples, n'ayez plus peur, ne soyez pas désemparés, car votre maître est ressuscité, et 2000 ans après, nous en parlons encore. N'avons-nous pas envie de dire à ce monde troublé, apeuré par la mort qui peut frapper, que Jésus est ressuscité? C'est notre espérance, c'est notre foi et notre confiance et notre paix. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et puis nous pouvons voir aussi que Dieu agit puissamment dans les moindres détails. En effet, nous dit Jean, tout cela est arrivé afin que l'Écriture se réalise. Aucun de ces os n'a été brisé, dit-il. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Et même Ésaïe l'a dit, on a mis sa tombe parmi les méchants et son sépulcre avec le riche. Les détails n'ont pas échappé à Dieu. Le détail même du nom de Joseph. C'est un Joseph de Nazareth qui a accueilli Jésus à sa naissance. Et c'est un autre Joseph qui va être confié pour sa mise en tombeau. Dieu est un Dieu du détail et il agit puissamment. Jean nous dit que celui qui a vu ces choses rend témoignage afin que vous croyiez. Et puis il dira, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Et puis une autre chose aussi, honnêtement de vous à moi, on n'aurait pas choisi Joseph d'Arimathée et Nicodème pour ce dernier acte. Enfin, personnellement, je ne les aurais pas choisis. J'aurais plutôt pris un Pierre, vous savez, quelqu'un qui est un leader affirmé, ou un Jacques et Jean, fils du tonnerre. Alors là, ils portaient bien leur nom, c'était leur caractère. Ou alors, on aurait pris un Josué ou un David, des héros, meneurs d'hommes. Mais Dieu a choisi un Joseph d'Arimathée et Nicodème, des plus discrets. Ce ne sont pas des leaders. Ils auraient même pu être comme les autres pharisiens, des adversaires. Voyez l'action puissante dans le cœur de l'homme. C'est Paul Washer qui écrivait « Le cœur de tout homme est une forteresse, faite de murs de péché plus robustes et plus résistants que ceux qui entouraient Jéricho. Si les hommes étaient incapables de faire tomber les murs de cette grande ville par leur propre force, ils ne sauraient vaincre la perversité de leur propre cœur, car seule la puissance de Dieu en est capable. C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre que la puissance de Dieu manifestée dans le salut d'un seul homme dépasse de loin celle impliquée dans la création même de l'univers. parce que Dieu a créé l'univers à partir de rien, mais il accomplit une chose beaucoup plus difficile lorsqu'il sauve un homme, parce qu'il est plus aisé de créer à partir de rien que de recréer à partir d'une humanité déchue et corrompue. Elle est là, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu. Depuis ce troisième jour jusqu'à aujourd'hui, le message de la résurrection ne change pas. Il est pour tout homme, pour toute femme, pour toute condition, toute culture, toute origine, proclamé avec puissance. Et enfin, on peut dire que Dieu agit avec puissance à partir de l'impossible. Oui, c'est une réalité. La foi de l'Église, ta foi, ma foi, est bâtie sur l'impossible d'un tombeau vide, rendu possible. Il nous faut rappeler que la pierre avait été roulée pas pour libérer Jésus, parce que Jésus pouvait passer à travers les éléments avec un corps ressuscité. Mais cette pierre a été roulée pour nous, afin que nous voyions de l'extérieur qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, que la mort n'a pas eu son dernier mot. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Sans Christ, nous serions encore perdus, encore esclaves de nos péchés, encore païens, sous le pouvoir de Satan, et nous serions encore morts. Le psaume 116, 8, revit. Tu m'as délivré, tu as délivré mon âme de la mort. Et le psalmiste qui a écrit, tu as changé mon deuil en allégresse, et tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, a vu s'accomplir sa parole prophétique. De perdus, nous pouvons être sauvés. D'ennemis de Dieu, nous sommes maintenant les amis de Dieu, les enfants de Dieu. De pécheurs, nous sommes saints. Et de spectateurs, nous devenons acteurs. C'est cela la résurrection. C'est tout cela la résurrection, bien au-delà de ce que nous pouvons même penser et imaginer. Aujourd'hui, en ces temps où la pandémie fait tellement de discussions et soulève tellement de points d'interrogation, je suis persuadé avec beaucoup d'autres et certainement vous que la résurrection est la réponse à ce monde incrédule, triste et révolté. Ce matin, je recevais un message depuis une mission qui travaille à Jérusalem et qui disait « Dans son corps glorieux, Jésus porte les marques indélébiles de ses plaies et ses blessures devenues des fissures d'espérance qui laissent jaillir la lumière divine et guérit nos blessures. » Ah. Chers amis, il n'y a rien de plus important dans cette vie, absolument rien, ni dans ta vie, ni dans la mienne, que cette réalité. Malgré les situations dramatiques de notre monde, aujourd'hui nous pouvons annoncer que c'est un jour de résurrection où Christ est ressuscité et vraiment ressuscité, comme le déclarent les Écritures. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Romains 4 nous dit, « Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Et puis Paul dira dans Romains, « Il est mort et bien plus, il est ressuscité. » Oui, aujourd'hui nous pouvons crier, nous pouvons à gorge déployée, dire que Jésus a vaincu la mort. Jésus a porté nos péchés à la croix. Il nous a réconciliés avec le Père pour l'éternité. Voilà le sens de Pâques. Voilà le sens de ce jour. Et le monde, au temps de Jésus, n'a pas cru. Même les disciples n'y ont pas cru. Et c'est après plusieurs apparitions que ses disciples ont commencé à témoigner de cet extraordinaire événement qui a changé le monde et qui a changé le cours de leur vie. Et aujourd'hui, ça nous permet aussi à nous de continuer à changer et de laisser cette puissance d'amour et de résurrection nous transformer. C'est cela l'Évangile. Il n'y a rien de plus important pour Joseph d'Arimathée et Nicodème que ce message-là. Il n'y a rien de plus important que cela dans ma vie, dans ta vie, dans la vie que cette réalité absolument rien. Et ce qui est merveilleux, c'est que des hommes et des femmes peuvent le vivre et y accéder aujourd'hui aussi. Oui, Jésus est ressuscité. Il est vraiment, vraiment ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Amen.